Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Benjamin Coria.
Bonjour.
Bienvenue, mettez le micro un peu plus près de vous. Vous êtes professeur de sciences économie à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés. On peut vous lire dans Le Bien commun, le climat et le marché. Réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Et vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho. On va voir la une du numéro de novembre. Peut-on éviter la récession pour interrogation. Il n'y a quasiment plus une institution internationale, Jean-Marc, qui pense qu'on peut éviter la récession aujourd'hui.
Oui, alors c'est assez variable d'ailleurs. Quand on regarde, il commence à y avoir des bruits. Là, il y a un indicateur qui vient d'annoncer que les prix à la production avaient baissé en Allemagne. Et donc, il y a tout un tas de... Depuis 15 jours, effectivement, tout le monde disait qu'on allait vers la récession. Et puis là, ça fait depuis 48 heures, de nouveau, il y a des gens qui disent, mais pas du tout, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je crois qu'on est surtout dans le flou, là.
Oui, puis on va éviter de se planter comme sur l'inflation.
Oui.
N'est-ce pas ? Bonjour Léonidas Kalogiropoulos.
Bonjour.
PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique et délégué général de l'Open Internet Project. Et vous êtes fondateur des Entrepreneurs pour la République, cette place de marché où cohabitent des solutions concrètes d'entrepreneurs, notamment d'ailleurs sur les questions énergétiques. On en a parlé au PS.
Je vous en donne une, pardon, ça me vient à l'esprit, je n'avais pas prévu de le faire. Une entreprise qui s'appelle Nénuphar, elle recouvre les bassins de lisier d'une bâche en caoutchouc pour récupérer le méthane et produire de l'énergie. Il y en a 70 000 de bassins comme ça. Vous mettez ce système sur les 70 000 bassins de France, ça crée l'équivalent d'une centrale nucléaire, mais pas en 15 ans, en quelques mois. C'est extraordinaire. J'invite...
Comment elle s'appelle ?
L'entreprise s'appelle Nénuphar. Je l'ai découverte il y a quelques jours sur la plateforme. Et ils ont déjà un premier bassin qui est opérationnel.
Donc c'est opérationnel.
C'est opérationnel, voilà.
Je crois qu'effectivement, on ferait bien de mettre bout à bout tous ces dispositifs.
Vous donnez une pointe d'optimisme ce matin.
Le méthane est le pire des gaz à effet de serre. Il y en a beaucoup moins que le CO2.
Ouais, voilà.
À ce sujet, vous vouliez dire. Alors, j'avais pas prévu d'en parler. D'ailleurs, je trouve ça presque révélateur, Benjamin Coria. Dans mon petit programme, j'ai pas mis COP.
Bah oui.
Et vous me dites, mais il faudrait quand même dire un mot de la COP.
Bah oui, il faut quand même dire un mot de la COP parce que, bon, d'abord, on va jamais le répéter assez. On atteint les derniers degrés de l'urgence. Bon. Et en même temps, on a une COP qui est, on va dire, pour le moins extrêmement décevante. Bon, parce que, alors, il faut d'abord donner l'information, même si elle va être répétée sans doute sur toutes les radios. Pratiquement la seule chose sur laquelle cette COP aboutit, c'est cette histoire du fonds pour pertes et dommages.
Alors, donc un fonds dédié aux pays les plus atteints par le réchauffement climatique.
Visant la réparation. Visant la réparation. Bon, alors, sur le principe, c'est une bonne chose, évidemment, qu'un tel fonds soit mis en place. Il avait été demandé depuis 30 ans par les gens des Maldives. Ce qui est très ennuyeux, c'est deux choses. Bon, d'abord que sa dotation, elle est envisagée à autour de 350 millions de dollars, alors qu'on estime que la réparation des dommages au point où on en est de la crise climatique, c'est de l'ordre de 200 à 300 milliards de dollars par an. Donc, il y a vraiment un problème d'échelle absolument gigantesque, à supposer même que le fonds finisse par fonctionner. Bon. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième, c'est que sur les vraies questions qui relèvent non pas de la réparation, mais de la prévention, c'est-à-dire en particulier du recours aux hydrocarbures, silence radio. Silence radio, et y compris, c'est pas très encourageant, parce que le pays hôte, l'Égypte, a mis vraiment la pédale tout à fait, j'allais dire douce, a mis la pédale en dessous sur ces sujets-là. Donc moi, je trouve ça très très ennuyeux, quoi. Je veux dire, je sais plus sur quel ton il faut dire. Regardez les indicateurs, regardez ce qui se passe autour de vous et bougez-vous. Bon, visiblement, les pays...
Déception, quoi.
Extrême déception. Non, et puis ça devient très inquiétant, parce qu'on a de moins en moins de temps. Et c'est pas moi qui dis
si
ça.
Si vous voulez rajouter un mot là-dessus, allez-y.
Moi, je voudrais juste rajouter un mot, parce que je trouve que l'on a une difficulté par rapport à ces grandes messes internationales, c'est que nos pays qui sont avancés ont été... capable, me semble-t-il, d'atteindre quasiment l'asymptote sur les progrès qu'on est capable de faire dans l'état actuel des technologies. Et j'ai le sentiment que nous sommes les premiers à être sous la pression pour faire des progrès, alors que là où il faut faire des progrès, c'est là où il y a on est sur cette même planète. Enfin, je suis pas totalement certain que lorsqu'on fait des pouillèmes de progrès et en mettant toutes nos industries sous contrainte, ça a beaucoup d'impact sur la planète, alors que l'Inde, la Chine et un certain nombre d'autres pays continuent à produire. Alors, me semble que là où on devrait véritablement avoir un travail de fond sur ces grandes messes internationales, c'est fournir nos moyens de production plus sobres énergétiquement à ces pays. Et ça, me semble-t-il, c'est un nouveau type de coopération qui est loin d'être celui que l'on recherche dans ces COP.
Parce que la plupart des économistes me feraient comme réponse, il n'a pas été question du prix du carbone et c'est la seule et unique solution pour réussir à réguler tout ça.
C'est l'un des points. Mais juste, on va pas y passer notre vie parce que malheureusement, c'est un peu catastrophique ce qu'on aurait à se dire. Oui, bien sûr, vous avez raison. Hein, c'est-à-dire que des grands pays pollueurs, la Chine, etc., devraient faire davantage. Et si elles font pas davantage, en tout cas. Peut-être pas pour la Chine, mais pour beaucoup d'autres, on devrait pouvoir les aider beaucoup plus, notamment par des transferts de technologies. Ça veut dire des technologies non polluantes. Ça veut dire déjà avoir une autre politique sur les brevets concernant ces technologies, parce que sinon, ça sert à rien de dire qu'on va les aider. Mais en même temps, quand même, constatons que avec la guerre en Ukraine ou sous le prétexte de la guerre en Ukraine, on est revenu en arrière et on n'arrête pas de nous dire c'est formidable, on a rempli nos réserves de gaz jusqu'aux oreilles, etc. Donc je veux dire, soyons plus modérés sur les efforts que nous faisons.
Il est vrai que le contexte que l'on vit a donné un petit coup dans l'aile à la transition énergétique.
Bah, oui.
L'assurance chômage, Jean-Marc.
Non, je voudrais quand même réagir.
Sur
ce qui vient d'être dit très rapidement. La première chose, c'est que effectivement, on fait le procès de la Chine et tout ça, mais la quantité de charbon n'a jamais produit dans le monde, n'a jamais été aussi élevé. Tout simplement, les pays occidentaux, ils se sont débarrassés des industries polluantes, ils les ont envoyées là-bas et ils disent maintenant, mais vous savez, vous polluez. Et je pense que si les pays occidentaux voulaient être cohérents, il faudrait dire non seulement on ne produit plus de charbon, mais on ne consomme plus de charbon.
Bien sûr.
Or, je rappelle quand même que dans ce pays, on subventionne la consommation de pétrole au travers des ristournes sur l'essence.
Oui,
on vient de donner une prime de 200 euros pour les gens qui se chauffent au fioul. On vient de réactiver la centrale de charbon de Saint-Avold pour pouvoir avoir de l'électricité. Et donc, on est dans une situation d'hypocrisie totale. Et donc, effectivement, ces COP sont, je rejoins pour une fois Benjamin Coria, ces COP sont très inquiétantes parce que c'est le bal des Tartuffes. Hein.
Oui.
Et la Commission européenne est intervenue en disant « Vous savez, nous, on va faire un effort et on va baisser notre consommation, non pas de 55%, mais de 57%.
Mmh. »
Et on se fout de la gueule du monde.
Mmh.
Et donc, je pense que effectivement, la COP, c'est un échec parce que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe. Et je pense que l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce soit plus au niveau des grands messes où, effectivement, tout le monde arrive en avion, mais que ce soit des décisions individuelles et très concrètes. Donc, la taxe carbone...
Les entrepreneurs pour la République.
Voilà.
Mais vous donnez une très bonne idée pour internationaliser les entrepreneurs pour la République. Ce que je voudrais juste vous dire, et je suis d'accord avec ce que vous soulignez, Jean-Marc Daniel, mais il me semble que c'est une question de méthode. Il faut savoir ce qu'il y a dans l'agenda d'une COP. Je crains malheureusement que ce qu'il y a dans l'agenda d'une COP, ce soit que des objectifs tellement macro que vous en arrivez à dire que c'est l'état de la tartufferie. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une COP très microéconomique où on est à la recherche de solutions. On a également ces sujets de transfert de technologie. Et malheureusement, je crains qu'elle soit mal calibrée pour atteindre son objectif.
Pour terminer, Jean-Marc. Parce
non, mais il n'y a pas besoin des COP, en fait. Je pense qu'effectivement, le grand enjeu, c'est tout le monde est concerné. Ce discours qui consiste à dire, ah oui, mais c'est machin qui pollue plus que l'autre.
Non.
Tout le monde est touché, tout le monde est concerné. Et donc, tout le monde doit faire des efforts. Et tout le monde, je pense, a conscience de ce qui se passe. Donc, il faut vraiment proposer proposer des choses très concrètes et arrêter tous ces grandes. Oui, ce bal des tartuffes qui ne sert à rien.
Juste un tout dernier mot.
Benjamin Cohen.
On n'a pas besoin des COP, etc. Non, je ne suis pas d'accord. Il nous faut.
On a été d'accord 30 secondes.
Non, mais il nous faut des objectifs partagés. Hein, et donc des horizons partagés. Après, je suis parfaitement d'accord avec ça. Après, c'est l'initiative décentralisée et la variété.
Et
la microéconomie et la micro-initiative citoyenne.
La macro.
Et les micro.
Je l'ai jamais rencontré.
Et tout ce qu'on veut. Mais il faut aussi des objectifs partagés, sinon il se passera rien.
Ah, mais il est certain que si on ne se parle pas du tout,
mais évidemment,
ce sera compliqué.
Mais les j'avance. C'est tous les ans.
Ouais, non, mais bien sûr, d'accord. J'avance sur l'assurance chômage.
L'enjeu, c'est le du prochain.
Je me tourne vers Leonidas Kalogiropoulos. Voici ce qu'il se dit en ce moment entre Olivier Dussopt et les partenaires sociaux. La variable d'ajustement, ce sera uniquement la durée d'indemnisation, pas le montant de l'indemnisation, ni les conditions d'accès à l'assurance chômage. Cette variation de la durée d'indemnisation, elle sera réduite d'un quart en période verte et elle sera donc de 24 mois la durée normale en période rouge. Et les informations que nous vous apportons depuis 9h, information BFM TV, il y aura donc un changement de période entre vert et rouge à partir du moment où on est sous les 9% de chômage ou bien si le chômage baisse 3 trimestres consécutifs. On parle du taux publié par l'INSEE, pas des chiffres de Pôle emploi. Voilà donc le cœur de cette réforme de l'assurance chômage, Leonidas Kalogiropoulos. Comment vous la percevez ?
Positivement.
Est-ce que c'est un électrochoc ?
Non, positivement. Vraiment, je pense que c'est très important de donner un signal à propos de signaux que l'on donne à la société, c'est que chacun doit être au travail. Voilà. Chacun doit être au travail. Maintenant, il y a les accidents, l'économie, la vie, qu'il faut qu'on perde son emploi, qu'il y a une rotation. Mais la rotation doit devenir beaucoup plus rapide. Alors, je note que les niveaux d'indemnisation n'ont pas bougé. Donc, ça reste parmi les niveaux les plus élevés qui puissent exister dans le monde. Hein.
Enfin, 18 mois, ça reste un niveau élevé. Non, 18 mois, c'est pour quelqu'un qui a tous ses droits.
Hein. Je parlais du niveau d'indemnisation en termes d'accompagnement financier. Ensuite, il y a la durée, il y a les deux paramètres. Sur le paramètre du versement de l'indemnité chômage, ça n'a pas bougé. Donc, on a juste bougé le curseur de la durée d'indemnisation. Et cette durée, effectivement, elle est raccourcie quand la capacité de créer des emplois est bien présente. Et quand on voit les centaines de milliers d'emplois qui sont sur le marché et qui sont pas pourvus, il y a une urgence, il y a quelque chose qui est mal paramétré. Je voudrais juste insister sur un point, parce que j'ai entendu les débats qui ont eu lieu sur la question de l'âge des demandeurs d'emploi, et certains se sont un peu émus du fait qu'on avait la même mesure pour les plus de 55 ans.
C'est 36 mois, et ça tombera donc à 27. Période de beau temps à 27 mois.
Bon, à 27 mois, ce qui est quand même, on est en train de parler de plus de deux ans d'indemnisation. Il y avait effectivement une sorte de pratique consistant à dire vous avez 36 mois, on va se mettre d'accord, vous allez partir, et effectivement une sorte de pré-retraite
un peu déguisée
et un peu consensuelle. Il faut que ça s'arrête. Cette pratique-là est une mauvaise pratique.
Ce sera pas 36 mois, mais 27.
Non, mais c'est une mauvaise pratique du côté des entreprises, c'est une mauvaise pratique collective. On travaille à ce que cette mauvaise pratique... Et c'est le début du travail, c'est le début. Nous devons faire davantage, et nous devons faire davantage, effectivement, pour l'emploi des seniors dans notre pays.
Cette réforme ne concernera que les nouveaux chômeurs à compter du mois de février. Le texte de loi qui a été validé par le Parlement, c'était jeudi, permet donc au gouvernement d'agir par décret, qui sera publié devant le Conseil d'État. Et ensuite, arrivera la phase 2024
par décret,
sur la gouvernance.
Parce qu'il faut pouvoir bouger en fonction des variations de l'activité et de variations du taux de chômage. Donc, puisqu'il faut pouvoir bouger rapidement, il n'y a que la voie réglementaire.
Benjamin Coria, c'est sans doute à compter du mois de février, pour les gens qui ont perdu leur contrat, à compter du mois de février, qu'on va se retrouver en période verte, et que là, on va donc appliquer ces nouvelles règles. Est-ce qu'on est dans le vrai ? Est-ce que ça a du sens ?
Non, pour moi, cette réforme, elle pose deux problèmes.
Allez-y.
Très sérieux d'ailleurs, très sérieux tous les deux. Le premier, c'est le glissement. D'une chose qui était gérée par les partenaires sociaux, qui était un compromis entre partenaires et qui pouvait bouger, qui n'a cessé de bouger, hein, par la négociation entre partenaires.
Le paritarisme, oui.
Oui, voilà, à un glissement où, dans lequel l'État a décidé de reprendre la main.
C'est vrai.
Et fait ce qu'il veut.
C'est vrai.
Et fait ce qu'il veut. Et fait ce qu'il veut. Alors, rouge, vert, 9%, 7%, 5%, 27 mois, 34 mois, etc. C'est un scandale. C'est un scandale absolu, je veux dire. Si l'État social, ça veut dire que l'État prend la main et décide, l'État n'est plus garant de rien. L'État devient, parce que c'était ça.
Il est garant de la dette. Bon.
Mais c'était ça. C'était ça, l'ancienne formule. On avait des compromis sociaux passés par les partenaires et l'État était le garant et à ce titre, il avait voix au chapitre, ce qui est absolument normal. Bon, il a dépossédé les partenaires sociaux, hein, comme il l'a fait sur les retraites, comme il est en train de le faire sur les retraites, pour imposer ses vues. Donc là, il y a un vrai problème de principe.
Alors ça, c'est la gouvernance.
On ne peut pas à la fois...
Sur la gouvernance, j'entends.
Non, mais attendez. Mais oui, on ne peut pas à la fois dire il faut plus de concertation, il faut plus d'engagement des citoyens, des partenaires,
etc. Mais c'est
très
vrai ce que vous dites, Benjamin Cordier. On a retiré le mot négociation au profit du mot concertation.
Mais oui, mais c'est du baratin. C'est du baratin.
Sur la gouvernance, je vous ai entendu.
Comme vous l'avez dit, il va gouverner par décret, je veux dire. Comme dans
mais
une république bananière.
Mais sur le fond, Benjamin Cordial, bon. Sur le fond et sur la mesure,
d'abord, il y a un truc entre la forme et le fond, c'est que c'est lui qui décide du moment dans lequel on va modifier, hein, à travers, parce que c'est lui qui fixe
C'est un choix politique. 9 mois, 9%, ou alors 3 trimestres consécutifs.
Alors, après, le deuxième problème de fond qui est là derrière, c'est toujours pareil, quoi, c'est cette idée que les gens sont chômeurs parce qu'ils le décident, parce qu'ils le veulent bien, et que donc on va les punir. Voilà. Alors que, mais oui, bien entendu, on va les punir parce qu'on va diminuer la durée d'indemnisation, parce que c'est eux qui décident de l'emploi. Alors que, toutes les études un peu sérieuses faites sur ce sujet, je dis bien sérieuses, pas conduites dans une perspective idéologique, elles disent qu'il y a un grand problème d'appariement entre l'offre et la demande d'emploi, et donc ce problème, il existe. Je ne veux pas vous dire qu'il n'existe pas, bien sûr qu'il existe. Bien. Mais ce problème d'appariement, il a trois causes, qui sont, des défauts de formation, ça veut dire qu'il n'y a pas les qualifications nécessaires, deux, des problèmes à la mobilité, en particulier dans une France dans laquelle on a plein de propriétaires, c'est un sujet dont on pourrait discuter, comment on gère ces questions de mobilité, et comment on fait accepter que des gens, du jour au lendemain, aillent travailler 350 km plus loin dans un je sais pas quoi, bon, voilà.
Et trois, donc...
Un problème d'attractivité des emplois, je veux dire, on l'a bien vu avec le post-Covid et la grande démission, je dis pas que c'est général à la France, hein, mais il y a une série d'emplois qu'on n'arrivera jamais à pourvoir. Bien.
Je dois marquer une pause, Benjamin Coria.
Ok.
Mais
donc,
j'ai compris à la fois sur la gouvernance. La question de la gouvernance, elle sera plus ou moins tranchée début 2024. Ça va pas être l'actualité immédiate. Il est certain que les éléments que vous avez cités font partie du sujet. Dire qu'avec une réforme de l'assurance chômage, le plein emploi est assuré, évidemment, ça n'est qu'un élément du puzzle.